À la Renaissance, la Loire est une artère de communication majeure pour l'économie du pays. Les acteurs et les bateaux sont divers. Les difficultés de navigation sont multiples. Le transport terrestre reste peu développé à la Renaissance. Mais sur la Loire, navigué depuis la préhistoire, le trafic marchand fonctionne intensément. La plupart des commerçants confient leurs marchandises à des voituriers par eau. Ces entrepreneurs de transport exercent de génération en génération, tout comme les simples mariniers qu'ils emploient. Les voyages durent de quelques jours à quelques semaines. Entre Nantes et Orléans, la remontée prend environ 20 jours, la descente, une douzaine. Ces acteurs sont rassemblés depuis le XIVe siècle dans une corporation, la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuve descendant en Isselle. C'est une sorte de syndicat dont le siège est à Orléans. Des jetons de présence attestent de l'appartenance à cette communauté. Elle programme et finance l'entretien du chenal navigable et son balisage, règle parfois des indemnisations en cas d'accident et défend l'intérêt de ses membres, notamment au sujet des péages. Toutes sortes de bateaux à fond plat et voiles carrées sillonnent la Loire. Mesurant jusqu'à 30 mètres de long, les chalands sont les plus gros bateaux de transport. En l'absence de vent, ils peuvent être halés par des animaux ou même par des hommes. La piotre sert de gouvernail et le bâton de marine, ou la bourde, planté dans le sable, aide également à manœuvrer. La sapine, plus légère, est souvent démontée à la fin d'un unique voyage de l'amont vers l'aval. Les tout cabanés, et futraux servent de bac pour traverser le fleuve, pour le transport sur courte distance, pour celui des personnes ou pour certains métiers comme la pêche ou encore l'extraction du sable. Naviguer sur la Loire est difficile. Les étiages, les crues, le déplacement des bancs de sable nécessitent une connaissance parfaite du fleuve. Le chenal peut changer d'une saison à l'autre. Les duis, sorte de jetée longitudinale, faite de pierres et de branchages, oriente les eaux pour assurer la navigabilité. Les balises guident les mariniers. La remontée sous les ponts en train de 3 jusqu'à 7 bateaux, en abaissant les mâts, est périlleuse. Certaines arches sont obstruées par des moulins, d'autres par des pieux, nasses ou filets. Les réglementations sont nombreuses et difficiles à faire respecter. En 1547, Henri II ordonne qu'après information de leurs propriétaires, les écluses, pêcheries, nasses, moulins, arbres, pieux, empêchant la navigation, il sera permis aux marchands de la communauté de les faire enlever. Mis en place par des seigneurs, des communautés religieuses ou des villes, les péages sont nombreux. En 1505, Louis XII supprime ceux instaurés depuis moins de 100 ans. Pour autant, à la fin du XVIe siècle, on en dénombre environ 120 sur la Loire, de Roanne à Nantes. Rien qu'à Blois, on en compte 4. Des pancartes indiquent les taxes pour chaque produit. Ces tarifs sont sujets de nombreux litiges. Les fermiers de péage peuvent poursuivre les bateaux qui tentent de s'en affranchir. La communauté des marchands finance son activité avec son droit de boîte, nom qui évoque le coffre accueillant les recettes. Malgré tous les efforts pour sécuriser la navigation, les accidents sont fréquents, mais il existe des indemnisations. Ainsi, en 1507, 15 livres tournois sont payés à Benoît Missier, marchand de Nevers, pour le dédommager du chargement de blé et d'orge qu'il perdit au mois d'avril au droit de Laril, paroisse de Saint-Benoît-sur-Loire, à cause de deux moulins qui étaient sur la voie des chalands. L'enjeu économique de la Loire est si important qu'au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci, résidant alors à Amboise, conçoit des plans pour relier la Loire au Rhône, donc l'Atlantique à la Méditerranée. Ce projet ambitieux ne se réalisera qu'à la fin du XVIIe siècle, mais avec le canal du Midi.